Bonjour tout le monde, ici Daï Diallo de Politique 101. Vous m'avez sûrement déjà lu sur Mondoblog. Je suis avec Ziad Malouf à Montréal pour la conférence sur l'avenir des médias francophones de l'OIF, conférence durant laquelle on a beaucoup parlé de ce qui pourrait se faire dans l'avenir pour relancer les médias francophones. Par exemple, on a retenu que l'innovation est quelque chose d'important et qu'il faut toujours aller de l'avant pour aller rencontrer les auditeurs, les lecteurs, un peu comme ce qu'on fait à Mondoblog. Donc n'hésitez pas à venir nous lire. On continue sur l'atelier des médias et ici à Montréal, comme on dit, YOLO, you only live once, vous ne vivez qu'une seule fois, carpe diem, comme on l'aurait dit à une certaine époque.
Très bien, Internet, qu'attendez-vous de nous ?
L'atelier des médias, la web émission participative.
RFI.
Ziad Malouf, Simon Decreuse.
Et vous.
Quel avenir pour les médias de langue française? C'est la question qu'a souhaité poser l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, à plusieurs journalistes et responsables de médias francophones. Pendant 3 jours, l'école HEC de Montréal a accueilli une bonne centaine de spécialistes et de curieux. J'ai moi-même été invité pour parler de l'atelier des médias et de son projet Mondoblog en particulier, qui est cofinancé par l'OIF. J'ai bien entendu profité de ma présence à Montréal pour interroger quelques participantes et participants à cette rencontre, compte rendu donc dans cette émission spéciale Médias et Francophonie aujourd'hui dans l'atelier.
Rejoignez la communauté de l'atelier des médias sur Internet.
http://atelier.rfi.fr.
Mesdames, Messieurs, amis partisans de la francophonie, bienvenue à Montréal, au Québec et au Canada. J'ai presque le goût de vous dire bienvenue à 24 heures en 60 minutes, mais je pense qu'on n'en aurait pas assez pour parler des enjeux, des défis de la francophonie, de ce colloque international sur les médias francophones. Un chiffre, un marqueur pour l'avenir que j'ai découvert en me préparant pour ce colloque. De 200 millions de locuteurs francophones, il pourrait y en avoir 715 millions en 2050. C'est un chiffre majeur. C'est déjà sans doute un point de départ pour vos discussions.
Bonjour Clément Duhaime.
Bonjour.
Vous êtes l'administrateur de l'Organisation internationale de la francophonie, connue également sous son acronyme, l'OIF.
Tout à fait.
C'est vous qui avez organisé, co-organisé avec HEC Montréal aussi, cette conférence sur l'avenir des médias francophones. De quoi il s'agit?
L'année dernière, justement, avec le président Diouf, parmi les constats qu'on a faits, c'est qu'il était utile et nécessaire de réunir autour d'une même table, pas les états généraux des médias, mais un certain nombre d'acteurs importants pour qu'ils puissent ensemble partager justement les constats. Où en sommes-nous justement au niveau international, avec la révolution numérique particulièrement? Où en sommes-nous justement de cette langue que nous avons en partage dans les médias?
En quoi c'était une préoccupation pour vous, les médias, et plus particulièrement, j'imagine, les médias d'information, la presse, les journalistes, le journalisme?
Écoutez, depuis 20 ans, 25 ans, on a des programmes de soutien, un fonds d'appui à la presse du Sud, qui a permis à 100-150 entreprises du Sud de pouvoir justement se professionnaliser. On a un fonds aussi de contenu numérique, pour qu'il y ait des contenus en français sur la toile.
Je précise d'ailleurs que donc le fonds des inforoutes, c'est comme ça qu'il s'appelait, le fonds de soutien aux projets numériques, a soutenu Mondoblog et a soutenu des projets de l'atelier des médias.
Vous voyez, je m'en réjouis. Et je vois aujourd'hui qu'on avait eu raison de vous soutenir. La même chose, le fonds de soutien à l'image du Sud aussi, pour la création de séries télévisées, de films, de documentaires. Et puis actuellement, un programme de soutien aussi pour accompagner particulièrement les pays africains qui doivent l'année prochaine, selon la décision de l'Union internationale des télécommunications, passer au numérique. Deuxièmement, on a une langue à partage. C'est pour ça que la francophonie existe, sinon on ferme la boutique. Si on a cette langue à partage, il faut qu'elle reste une grande langue de communication internationale. Non pas contre une autre langue, mais avec d'autres langues. Et on se bat, vous le savez, on a des alliances avec les hispanophones, les lusophones, les arabophones, pour que nos langues, justement, continuent à exprimer la diversité du monde. Troisièmement, la francophonie, quand elle est née en 70, et elle a ça dans son ADN, c'est la diversité des cultures. Les médias, pour nous, c'est justement un canal privilégié d'expression de la diversité des cultures. Parce que c'est pas qu'on connaît la langue française, la France ou le Québec, etc. C'est tout. Si on a autour de la table le tiers des Nations Unies, on veut justement que toute cette communauté puisse se faire connaître aux autres pour créer une véritable communauté. Quatrièmement, nous croyons sincèrement que, comme il y a 30 ans, quand les francophones se sont mobilisés pour créer TV5 Monde, qui est aujourd'hui une grande réussite de la francophonie. On pense qu'aujourd'hui, il est temps aussi que les francophones se parlent et créent des nouvelles alliances, y compris économiques ou commerciales. Et on pense aussi que ce soit les blogueurs, que ce soit tous ces nouveaux métiers qui se développent grâce aux nouvelles technologies, c'est une chance pour la francophonie. C'est sûr qu'on peut se dire, oui, c'est fini, quoi. Non, je pense que là, il y a une opportunité, il y a une chance aux francophones de la saisir, pas juste à l'organisation des gouvernements. Nous favorisons cette rencontre parce que, comme je le disais hier lors de la conférence d'ouverture, nous sommes des lanceurs d'alerte. Et nous pensons qu'aujourd'hui, notre langue est menacée comme grande langue de communication. Et à ce moment-là, on appauvrirait. Le monde serait appauvri. Ce serait une perte terrible pour l'humanité que nous fassions pas ce combat-là.
En filigrane de cette rencontre, il y a évidemment l'émergence d'Internet avec toutes les conséquences qu'on continue à observer aujourd'hui, de cette mise en réseau décentralisée, en tout cas on l'espère, des individus. Contrairement à, par exemple, un moment où on va décider ensemble de créer une télévision, le monde d'Internet, c'est l'inverse d'un monde souverain, en théorie. C'est un monde où il y a beaucoup plus de points. C'est un monde sans frontières. Une télévision, c'est nécessairement beaucoup de négociations avec des États, des choses comme ça. Internet, c'est un monde de plus grande liberté. Comment est-ce qu'une organisation comme la vôtre peut s'insérer dans cet univers qu'on dit souvent très horizontal ? Il y avait un monde aussi qui échappait.
L'hégémonie aussi, parce que autant, vous avez raison, autant ce média qui permet maintenant aux citoyens de s'exprimer directement, mais aussi sans nuance parfois, vous le savez bien. Une information qui n'est plus nécessairement vérifiée à cause de la rapidité, etc. Vous connaissez mieux que moi tous ces enjeux. Mais je crois que l'organisation, là où elle peut jouer un rôle, c'est, comme elle l'a fait dans le passé, par des réseautages. Donc, réseau des régulateurs, réseau de l'Union de la presse francophone, réseau, vous l'avez vu, de l'audiovisuel public en Afrique, réseau dans le domaine également, j'espère, demain des blogueurs. Je pense que plus on va multiplier les réseaux, plus on va les soutenir, c'est eux qui sont beaucoup plus à même que nous seuls de pouvoir faire en sorte qu'on ne perde pas de vue que ces nouveaux médias ou ces nouvelles technologies, et ils vont encore changer, on le sait bien, dans les prochaines années, ben, que ça continue à être des garants de liberté, que ça continue à contribuer aussi à une démocratie et non pas au totalitarisme ou à des dictatures qui se multiplieraient. Notre force, dans le fond, je l'ai toujours dit, la force de la francophonie, ce n'est pas ses budgets. La force de la francophonie, ce sont ces hommes et ces femmes d'essayer de mettre en réseau les meilleurs de la francophonie. Et je pense que c'est ça qu'il faut continuer à faire. Et donc, je pense qu'il y a une prise de conscience ici. Et c'est pour ça que j'ai voulu du privé, j'ai voulu du public, j'ai voulu des opérateurs, mais j'ai voulu aussi, comme vous, des gens de terrain qui êtes plongés dans qui êtes nés avec ces nouveaux médias. Et je pense que c'est vous qui allez nous éclairer. Parce que moi, j'ai l'intention, je l'ai annoncé, j'ai bloqué toute la partie de ma programmation 2015-2018 que je dois déposer à Dakar dans 2 mois pour entendre ce qui va se passer ici en me disant, voilà, il faudra certainement qu'en 2015-2018, on ait un programme pour appuyer les propositions qui vont être pour nous les plus intéressantes ou les plus originales pour la suite. Pourquoi pas aussi ce type de forum plus régulièrement aussi, peut-être, on verra.
Merci, bon courage. Merci. Pour tout ce programme.
Merci et continuez à vous battre comme vous le faites pour que l'information, justement, soit une information qui se rende à toutes les populations et surtout les plus jeunes.
RFI.
Alors, nous allons commencer ce premier panel. Bonjour et bienvenue à tous. Vous le savez, nous sommes entrés dans une économie de l'attention. C'est l'un des problèmes des médias, c'est qu'il faut capter l'attention. Ça va être le problème des intervenants qui vont devoir capter votre attention et vous détourner de Twitter, vous détourner de Facebook, vous détourner de vos mails, de vos autres occupations. Donc il y a un vrai défi pour eux et pour moi qui est d'arriver à vous intéresser suffisamment, à capter suffisamment de cette précieuse et trop rare attention pour pouvoir avancer dans ce débat.
Bonjour Philippe Couve.
Bonjour Ziad.
Je te retrouve ici à Montréal dans cette conférence. Tu as participé à l'organisation de cette rencontre, notamment en imaginant, en conceptualisant les thèmes et l'articulation des débats.
Oui, il y a eu un travail un peu pour essayer de formuler les enjeux de cette conférence. Alors on sait qu'au final, le but des travaux qui ont lieu ici, ça va être de fournir des éléments aux chefs d'État qui vont se rencontrer à Dakar pour le sommet de la francophonie à la fin du mois de novembre. Alors la question des médias ne sera pas centrale dans le sommet, mais ça va être une question qui, on l'espère, va être aussi prise en charge par les chefs d'État pour faire un certain nombre de recommandations et voir comment, dans ce contexte particulier qu'on vit en ce moment, où les médias dans beaucoup de pays sont bousculés par cette révolution numérique, on en parle toutes les semaines et plus que ça encore dans l'atelier des médias, comment, face à cette révolution qui vient bousculer, qui vient remettre en cause, qui fait qu'il y a des journalistes qui se retrouvent au chômage, qui fait qu'il y a des médias qui ferment leurs portes, qui mettent la clé sous la porte, etc. Il y en a d'autres aussi qui apparaissent, qui naissent. Comment faire ? Est-ce que la francophonie peut intervenir d'une manière ou d'une autre pour favoriser cette évolution, favoriser peut-être les échanges d'expériences entre ce qui se passe dans les divers pays francophones, favoriser les transferts de compétences, favoriser tout ce qui peut aider à ce que la francophonie soit aussi un espace dans lequel les médias se réinventent.
Ça fait plusieurs années, toi, que tu réfléchis à ces questions, que tu les observes. Tu as créé l'Atelier des médias il y a 7 ans, mais déjà avant, tu t'interrogeais beaucoup sur cette évolution. Et c'est étrange parce que quand je t'écoute parler, j'entends des choses que tu disais peut-être déjà il y a 5, 6, 7 ans, 8 ans. Est-ce que les problématiques ont évolué ? Est-ce qu'il y a encore des choses auxquelles on peut véritablement réfléchir ? Est-ce qu'il y a encore des solutions à trouver ? Enfin, est-ce que c'est encore l'ébullition que tu décris ?
Les choses ont évolué, les choses évoluent lentement, selon moi, parfois, mais malgré tout, elles évoluent quand même. Pour prendre un exemple, quand on a commencé l'atelier des médias, l'une des questions que posaient les gens, c'était est-ce que les journaux quotidiens vont mourir ? Mais non, ils ne peuvent pas mourir, la presse ne mourra jamais, aucun média n'en a jamais tué un autre, et on était un certain nombre à penser que peut-être ça allait être extrêmement compliqué pour les journaux de presse quotidienne imprimés. Aujourd'hui, tout le monde, un peu partout à travers le monde développé en tout cas, pense que les jours des journaux quotidiens imprimés sont comptés et les gens qui possèdent des journaux quotidiens imprimés ont pour ambition au mieux de maintenir leur diffusion le plus longtemps possible, mais ne leur voient pas ou très très rarement un avenir florissant et pensent qu'il faut que petit à petit ils fassent un transfert de leur activité vers d'autres supports. Alors ça peut être le web des ordinateurs, ça peut être le web des tablettes, ça peut être le web des mobiles, ça peut être autre chose, différentes solutions. Donc ça a changé, cette perception-là elle a changé. Et plus largement, quand on parle avec les journalistes, il y a 7 ans, il y a 10 ans, etc., il y a des gens qui disaient « Non, mais moi, le web, ça m'intéresse pas, j'en ferai jamais. » Aujourd'hui, on a rarement ce genre de choses. Les gens demandent « Mais comment on fait ?» Comment on se débrouille ? Alors, comment on fait techniquement, en termes d'aptitude ? Comment on fait pour acquérir les savoir-faire ? Comment on fait pour faire un récit multimédia ? Comment on fait pour faire différentes choses ? Et puis, comment on fait en termes d'organisation ? Comment on s'organise pour se mettre en mesure de produire ça ? Parce que c'est compliqué, ça demande pas les mêmes temps. Ça demande pas la même organisation, ça demande pas d'avoir recours aux mêmes équipes, etc. Donc la question aujourd'hui, elle est pas je vais le faire ou je vais pas le faire, je m'y oppose ou j'accepte. Elle est mais comment on fait ? Et je trouve que c'est des questions beaucoup plus intéressantes.
Alors on va parler dans un instant de la manière dont tu as souhaité articuler cette réflexion sur l'avenir des médias francophones. Avant cela, je veux bien que tu réagisses à cette idée. Quand tu as commencé l'atelier, on va encore parler un peu de passé, quand tu as commencé l'atelier des médias, il y avait une grande réticence, en tout cas dans la profession, vis-à-vis de l'internet, vis-à-vis du web, beaucoup d'inquiétudes. Après on est peut-être passé à une période où c'était devenu politiquement incorrect d'avoir une trop grande réticence. Et depuis quelques mois, depuis peut-être l'affaire Snowden, à la faveur de plusieurs révélations, etc., c'est à nouveau politiquement correct de critiquer, de s'inquiéter, etc. Et j'ai senti dans beaucoup de discours une grande inquiétude, une grande réticence, une frilosité, une défiance à l'égard de l'Internet qui ressort et qui ressemble étrangement à celle qu'on pouvait observer il y a 7-8 ans. Comment tu vis ça, toi ? Comment tu te positionnes par rapport à ça ?
Je vois pas les choses exactement de cette façon-là. Effectivement, il y a eu un moment où il y avait une grande opposition et les gens qui pensaient que c'était quelque chose d'intéressant, ce qui se passait sur Internet et les réseaux sociaux et qu'il fallait trouver le moyen de faire du journalisme avec ça, étaient minoritaires. Et puis, effectivement, comme tu le dis, à un moment donné, peut-être au tournant des années 2010-2012, c'est devenu le sentiment majoritaire. Oui, l'avenir est là, etc. Et je crois qu'aujourd'hui, on est revenu sur quelque chose de beaucoup plus mesuré. Internet, les réseaux sociaux, quoi que ce soit, ce n'est ni le paradis, ni l'enfer. Ça peut être la pire et la meilleure des choses. Et l'affaire Snowden a montré aussi qu'il y avait des utilisations qui pouvaient être extrêmement négatives. Donc j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est revenu dans le mouvement de balancier, dans quelque chose d'un peu plus équilibré, où on regarde à la fois les bénéfices, ce que peuvent apporter les nouveaux dispositifs à notre disposition, et d'autre part, les inconvénients, voire les risques qu'ils peuvent représenter. Et je crois que dans cette vision équilibrée, on est plus proche de quelque chose de réaliste, de constructif, où il faut effectivement regarder les choses de manière sans affect, quoi. Voilà, c'est des éléments qui sont là, et comme un couteau, c'est à la fois quelque chose qui peut être très utile et à la fois quelque chose qui peut être très dangereux. Et là, on est dans cette situation là donc il va falloir probablement mettre en place des règles de fonctionnement. Alors on en parle sur un mode fiscal parfois, on peut en parler aussi sur un mode réglementaire. La liberté d'expression dans tous les pays, elle est limitée par la loi, parce que parfois elle se heurte au droit à la vie privée des gens, donc on limite la liberté d'expression. Elle se heurte parfois à des délits que peuvent être l'incitation à la haine ou l'apologie de certains crimes, etc. Donc là aussi, ce sont des limites qui existent de longue date à la liberté d'expression. Peut-être qu'on a besoin d'un cadre de régulation, alors même s'il existe, mais d'une applicabilité pour avoir un mauvais néologisme, mais rendre applicable aussi cette régulation sur Internet, ce qui pose tout un tas de questions assez ardues, mais là, c'est pas le sujet.
Alors, on va parler avec, dans la deuxième partie de l'émission, avec certains des intervenants des tables rondes. Vous avez souhaité, avec les organisateurs de l'OIF, de HEC Montréal, articuler les réflexions autour de trois temps, autour de trois rencontres. Tu peux nous dire un mot? Je ne sais pas si c'est intéressant pour toi qu'on les détaille. Alors, on peut commencer. Donc, la première, c'était autour des nouvelles techniques et des nouveaux usages des médias, où d'ailleurs, je le précise, j'ai présenté donc l'atelier des médias et le projet Mondoblog.
L'idée de cette première table ronde, en fait, dans ces trois temps, le premier temps, c'est de voir un petit peu au milieu de la bataille. Qu'est-ce qui se passe au milieu de la bataille? Donc, des gens qui sont dans cette révolution numérique, comment ils se débrouillent? Donc, on a entendu des exemples de gens qui sont au Vietnam, des gens qui sont en France, pour certains, de gens qui sont ici au Québec, de gens qui sont dans différents endroits dans le monde, nous expliquer comment ils essayaient de trouver des solutions, comment, avec difficulté parfois, avec réussite dans d'autres cas, ils arrivaient à faire avec cette révolution numérique, à s'y adapter et à en sortir le meilleur. Dans un deuxième temps, la deuxième table ronde qu'on a organisée est plus un petit peu média par média. Voir si, au-delà de ça, même s'il y a une convergence, voir s'il y a des enjeux spécifiques pour la télévision. Et on sait qu'il y a des enjeux spécifiques pour la télévision, notamment en ce qui concerne l'Afrique, parce que 2015 est une date particulièrement importante pour la TNT, la télévision numérique terrestre, puisque les pays réunis au sein de l'Union internationale des télécommunications ont décidé que, au mois de juin 2015, l'Afrique, le continent dans son ensemble, devait avoir basculé sur la TNT, etc. Je passe sur les détails techniques. Manifestement, beaucoup de pays ne seront pas prêts à la date prévue, exactement. Certains mettront des mois en plus, d'autres sans doute des années en plus, mais ce mouvement-là est engagé. Et la télévision numérique terrestre, ça veut dire qu'il y a aussi beaucoup plus de chaînes et ça veut dire qu'il y a aussi beaucoup plus de contenu à diffuser. Donc ça pose d'autres questions. Et du point de vue de la francophonie, ça pose aussi la question de savoir est-ce que les contenus qui seront diffusés sur ces nouvelles chaînes, ça sera uniquement des contenus américains, uniquement des contenus chinois, uniquement des contenus nigérians? Et est-ce qu'il y aura aussi des contenus francophones? Et est-ce qu'il y aura aussi des contenus issus des pays mêmes où seront diffusées ces télévisions? Pour prendre un exemple, est-ce que, je sais pas, le Burkina Faso sera en mesure de produire des contenus télévisuels pour alimenter ces nouvelles chaînes qui vont être rendues possibles avec la télévision numérique terrestre? Donc voilà, cette question sur la télé spécifique, sur la radio, il y en a d'autres, sur les agences de presse, il y en a d'autres. Donc le deuxième panel est destiné plus à avoir cette approche média par média. Et puis le dernier, Le troisième, ça sera celui qui essaye vraiment de se projeter dans l'avenir. Et l'objectif de l'ensemble de ces tables rondes, c'est de fournir des recommandations, des suggestions aux chefs d'État francophones qui vont être réunis à Dakar à la fin du mois de novembre.
Courte pause dans l'atelier, on se retrouve bien entendu dans un instant. À tout de suite. Vous écoutez l'atelier des médias RFI, bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes cette semaine à Montréal au Canada où s'est tenue la conférence internationale sur l'avenir des médias francophones. Un événement organisé par l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. 3 jours d'échanges et de débats pour comprendre les enjeux et les défis des médias de langue française dans le monde. Compte rendu de cette rencontre aujourd'hui dans l'atelier des médias. La parole est toujours à Philippe Couve qui a participé à la coordination éditoriale de cette conférence.
L'atelier des médias. La web émission participative.
RFI.
Ziad Malouf, Simon de Creuse.
Et vous.
Alors je résiste pas à l'envie de te demander, toi, qu'est-ce que tu imagines pour dans 10 ans? Qu'est-ce que c'est les lignes fortes? Qu'est-ce que c'est tes préconisations par rapport donc à cette idée de médias francophones à l'échelle internationale?
Alors, forcément, lorsqu'on prévoit l'avenir, on raconte des bêtises. Donc, je vais raconter des bêtises, ne serait-ce que parce que si on se reporte 10 ans derrière, on est en 2014, si on se remet en 2004, et moi, je m'intéressais déjà aux questions d'Internet de très près en 2004. En 2004, il n'y avait pas YouTube. En 2004, il n'y avait pas Facebook. En 2004, il n'y avait pas Twitter, pour ne prendre que ces exemples-là, qui aujourd'hui ont complètement bousculé l'univers des médias, sans compter tout un tas d'autres mouvements qui ont eu lieu. Donc, c'est extrêmement difficile de prévoir l'avenir. Ce qu'on a appris néanmoins, c'est que dans la mesure où cet avenir n'est pas précisément prévisible, la capacité à s'y adapter est très importante. Donc, ce qui est essentiel pour les médias, mais au-delà des médias, pour tout un tas d'entreprises qui vont être bousculées par cette révolution numérique et qui vont continuer à l'être, c'est leur capacité à s'approprier les innovations technologiques, les mutations des usages, de manière à pouvoir continuer à faire leur métier, pour les médias, le métier d'informer, par exemple, en fonction de ces nouvelles... Donc, la capacité d'adaptation. Alors, être capable de s'adapter, ça veut dire beaucoup mettre l'accent sur la formation, mettre l'accent sur l'innovation. Je pense que monter des labs, des laboratoires, des dispositifs dans lesquels on se donne la liberté d'échouer, de tenter des tas de choses et d'y apprendre même à travers ces échecs et que ça permette de nourrir les succès futurs, je pense que c'est des idées centrales autour desquelles il faut travailler. Donc la formation d'un côté et l'innovation de l'autre. Et à la limite, c'est valable pour les médias, mais c'est valable pour tout un tas d'autres activités humaines qui vont encore, dans les 10 ans qui viennent, être fortement bousculées, révolutionnées par ce qui nous attend comme innovation et comme mutation de nos manières de vivre finalement.
L'idée, si je dois résumer, c'est de se mettre en position future, c'est-à-dire de se mettre en position pour accueillir ce qui va se passer, ce qui va arriver, etc. Quelle place dans ce futur pour le journalisme, pour l'intérêt des métiers d'information?
Je pense qu'il y aura toujours du journalisme tant qu'on se préoccupera de détecter des informations nouvelles et utile pour les gens auxquels on s'adresse. Bien sûr, là-dedans, il y a la question de la vérification, il y a la question de la mise en forme, il y a toute une série de questions. Et on va probablement être amené, alors c'est déjà en cours, mais c'est pas tellement pensé encore, je dirais, par les journalistes, être amené à redéfinir fortement ce qu'est la notion même d'information. Pendant longtemps, pour les journalistes, l'information, c'était ce qui permet d'écrire un article, ou ce qui permet de faire un reportage en radio ou en télévision. Aujourd'hui, l'information, c'est un champ beaucoup plus large. Une donnée chiffrée dans un tableau Excel en matière de data journalisme, c'est une information. Parce que si cette information est fausse, la courbe qu'on dessine est fausse et donc les conclusions qu'on peut en tirer sont erronées. Donc l'information va devenir un concept probablement beaucoup plus large sur lequel il va falloir aussi réfléchir. Et l'information n'est pas seulement quelque chose qui va pouvoir faire la une du journal. C'est beaucoup plus diffus que ça. Il va falloir essayer d'en cerner les limites et c'est aussi dans les choses qui nous attendent dans les années qui viennent.
Merci Philippe.
Merci à toi.
Bonne continuation.
On a lancé TV5 Afrique, c'était au milieu des années 90 et c'était à ce moment-là que le numérique commençait sa vaste opération de mutation perpétuelle qui allait aller en s'accélérant avec le temps et bouleverser constamment le paysage audiovisuel depuis. Moi, l'expérience m'a appris que l'innovation est ambivalente. La technique n'est ni bien ni mal. Elle est ce que nous en faisons, donc il faut rester vigilant. Parce que, après l'explosion des bouquets, on a assisté à la grande révolution, celle de la généralisation d'Internet. Cette généralisation d'Internet, elle a évidemment eu un premier impact, la diversification des terminaux. Et on sait que la réception entre les ordinateurs, les téléphones intelligents, les tablettes, tout ça s'est ajouté aux écrans de télé, que la bataille, elle se joue sur les écrans, sur les téléphones intelligents, sur les tablettes. Donc la radio a aussi envahi les écrans. On a donc cette diversification des terminaux. Mais ça n'est rien, cette diversification, à côté, au fond, des ruptures comportementales radicales qui ont été induites par cet espace d'innovation débridé qu'est l'océan numérique, l'océan numérique, l'océan numérique, l'océan numérique.
À l'arrière des berlines, on devine des monarques et leurs figurines.
Continue la découverte de cette conférence sur l'avenir des médias francophones avec vous, Amadou Bakayoko. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur général de la RTI, c'est-à-dire la radio-télévision ivoirienne.
Mmh, tout à fait.
Et vous êtes donc ici à Montréal pour... vous êtes venu présenter en gros votre stratégie numérique, c'est ça ?
Tout à fait, mais je suis également venu écouter, puisque pour parler d'avenir, je crois qu'il faut être ouvert aux différentes approches. Et nous avons des représentants de médias d'Asie, d'Europe, ainsi que d'Amérique du Nord, donc c'est très enrichissant.
Qu'est-ce qui vous a intéressé d'abord? Pourquoi vous êtes venu ici représenter la RTI et puis, comme vous dites, écouter ce qui se dit?
Écoutez, nous nous sentons pleinement partie prenante un peu de ce grand mouvement des médias francophones.
Quand vous dites nous, c'est qui c'est?
La RTI, tout à fait. En tant que RTI et puis en tant que médias africains en général, nous considérons que nous avons notre parole à donner et que nous faisons partie de cet écosystème et de cette réalité. Donc, il s'agissait aussi de donner notre point de vue sur toutes ces évolutions, ces mutations technologiques, mais également, comme je le disais, de voir un peu les approches. Nous avons pu voir l'exemple du média canadien La Presse, qui est assez intéressant, de voir comment ils ont décidé de mettre une énergie importante sur le développement de leur offre numérique, mais aussi entendre le représentant du Vietnam parler de polytalent. Ce sont des nouvelles expressions qui sont aussi parfois utiles en qualifiant ces journalistes de polytalent, ce qui correspond effectivement à une vraie réalité. C'est un challenge pour le journaliste d'être pertinent sur les différents médias. Donc c'est enrichissant, je suis vraiment satisfait d'être présent.
D'une manière générale, qu'est-ce que ça vous apporte d'écouter donc les interventions des uns des autres, de voir ce qui se fait donc ici au Canada, ce qui se fait au Courrier du Vietnam? Vous donniez l'exemple donc de la rédactrice en chef du Courrier du Vietnam. Qu'est-ce que ça peut vous apporter à vous en tant que dirigeant d'un groupe audiovisuel en Afrique, en Côte d'Ivoire?
Nous sommes dans une période avec énormément de changements. Dans cette période-là, vous avez à la fois, dans notre cas à nous, la libéralisation prochaine de l'espace audiovisuel, vous avez un changement technologique important avec l'introduction de la TNT, vous avez les usages numériques qui se développent. Et vous avez...
La TNT, c'est la télévision numérique terrestre qui doit arriver sur le continent africain.
Voilà.
En 2015.
En 2015. En même temps, vous avez de grands acteurs internationaux, dont notamment le groupe Canal+, qui vient s'installer en Côte d'Ivoire, le groupe Lagardère qui a déclaré son intention. Donc vous avez une période avec beaucoup de changements. Dans ces périodes-là, vous devez faire des choix. Ces choix, vous les basez à la fois sur vos échanges en interne, sur votre écoute des attentes et des besoins de vos téléspectateurs et de vos clients, mais il est aussi important d'être ouvert à d'autres approches et de confirmer parfois certains points de vue. Donc, on ne découvre pas des choses complètement, mais généralement, ça vous aide à avoir des ordres de grandeur ou à sentir qu'une tendance est en train d'arriver à maturité. Et ce que j'ai entendu aujourd'hui confirme un certain nombre de choix qu'on a fait volontaristes sur le développement de l'offre numérique. On aurait pu attendre d'abord l'enjeu TNT avant de développer notre offre numérique. Mais on a senti, c'est pour ça qu'on a développé une application depuis quelques mois, qu'il fallait mener de front les deux batailles. Et à entendre tout ce que j'entends aujourd'hui, cela confirme que c'est une tendance lourde. Et donc, il est important de commencer à se positionner sur cette tendance.
Alors on va peut-être parler pour finir de votre inscription dans le cadre francophone et de la manière dont vous vivez cela ou de la manière dont ça vous intéresse. Avant cela, je veux bien que vous disiez un mot de la présentation que vous avez faite, qui était une présentation assez courte, assez synthétique, qui montrait, en tout cas qui voulait montrer qu'il y avait une vraie réflexion, une vraie volonté de développer une stratégie numérique à la RTI, qui est une chose qu'on connaît probablement en Côte d'Ivoire ou qu'on a vu arriver en Côte d'Ivoire, mais qu'on connaît moins de l'extérieur, où on a souvent découvert la RTI au moment de la crise en Côte d'Ivoire et découvert à cette occasion qu'à l'époque le site internet ne fonctionnait pas, qu'il n'y avait pas de possibilité de regarder à nouveau des programmes qui avaient été diffusés, etc., etc.
Effectivement, c'est vrai que la RTI a 50 ans d'histoire, donc 50 ans de haut et de bas, hein, puisque la vie d'une société est faite de haut et de bas, et c'est malheureusement illustré un peu négativement parfois lors de cette crise, mais je crois que le souhait des autorités, en tout cas lorsque moi j'ai été recruté, parce que je suis un profil venu de l'extérieur de la diaspora ivoirienne, ils ont souhaité redynamiser, ils ont souhaité créer justement un peu cette nouvelle identité de la RTI qui soit en conformité avec le temps d'aujourd'hui. Donc nous nous inscrivons dans ce schéma-là. Effectivement, nous avons fait ce diagnostic, hein, une approche vraiment très très classique d'écouter nos téléspectateurs, nos auditeurs, et c'est suite un peu à ces phases d'écoute que nous avons compris cette évolution de la société ivoirienne, cette évolution vers la modernité des jeunes. Dans ma présentation, je l'indiquais, hein, les changements technologiques entraînent surtout des changements d'usage, parce qu'effectivement les gens souhaitent pouvoir consommer le contenu où ils veulent, ils souhaitent pouvoir consommer le contenu pas forcément au moment où vous le diffusez, mais au moment où ils sont disponibles pour pouvoir le regarder. Un des intervenants disait tout à l'heure, si une nouvelle est vraiment importante, elle va me trouver. Je crois que c'est vraiment un peu le sens des attentes des populations aujourd'hui. Et donc, c'est vraiment ces besoins, ces évolutions d'usage qui ont été permises par la technologie pour lesquelles nous sommes là à trouver des réponses à travers des innovations technologiques.
Merci.
Merci.
On laisse les armes à l'entrée. Les cyniques, les critiques, les sceptiques, les bobards, les vantards, non, n'ont pas d'accès. Passeport, c'était rien. Dans mon quartier, vous êtes tous invités, mais quand même, ce quartier faudra l'inventer.
RFI.
Bonjour, Sybille Rizek.
Bonjour.
Comment ça va?
Très bien, merci.
D'abord, tu es rédactrice en chef du Commerce du Levant, qui est un journal libanais qui appartient au groupe de l'Orient Le Jour, c'est ça ?
C'est ça, c'est un mensuel économique en français. C'est le seul au Moyen-Orient. C'est un très vieux titre qui date de 1929 et qui aujourd'hui se porte pas mal.
Tu es venu assister à la conférence sur l'avenir des médias francophones ici à Montréal. Tu peux nous dire pourquoi d'abord tu as accepté de participer à cette conférence ?
Ben, c'est intéressant de se retrouver avec d'autres médias francophones qui viennent de tous les recoins de la planète. C'est intéressant de voir toute cette diversité, de voir en même temps que malgré ces différences, il y a des points communs, des problématiques communes évidemment liées à la thématique de la conférence, c'est-à-dire le défi du numérique.
Quels sont pour toi ces défis communs et quels sont les défis liés à tes propres projets, tes propres médias ?
Alors, ce qui est commun, c'est la difficulté d'être francophone, finalement, dans des univers de plus en plus anglophones. Donc, la francophonie a une partition à jouer, mais elle est quand même minoritaire, c'est une niche. Au Liban, c'est accentué par le fait qu'on ait un titre en français dans un univers arabophone. Donc, il y a cet aspect-là qui est commun à d'autres. Et puis, il y a l'aspect modèle économique qui n'est pas encore défini. Nous, on est en transition. On doit trouver un nouveau modèle économique.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que les titres, un titre comme le nôtre posé essentiellement sur les ventes et sur la publicité, c'est revenu, c'était ceux des ventes et de la publicité. Aujourd'hui, on fait une migration vers les supports mobiles et web qui supposent d'une part beaucoup d'investissements, à la fois techniques, mais aussi humains. Et de l'autre, on ne voit pas de revenus pour l'instant. Donc il faut qu'on imagine un nouveau modèle économique, tout en étant créatif dans la façon de faire du journalisme toujours. Ça, c'est très important et on l'a redit, je l'ai entendu dans la conférence, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de changer de métier, il s'agit d'adapter son métier au nouveau support, mais en trouvant de nouveaux moyens d'exercer ce métier. Donc c'est un effort très important, mais qui n'a pas encore trouvé son modèle économique, d'où les inquiétudes.
Est-ce que tu avais des attentes particulières en venant ici ? Est-ce que c'était de la curiosité ? Est-ce que c'était des réponses aussi aux questionnements que tu as par rapport à l'avenir de tes médias ?
Non, je n'avais pas de réponse. J'en attendais pas vraiment parce que je sais que tout le monde se pose des questions en ce moment, mais c'est intéressant de voir comment chacun essaye avec ses moyens. Alors, on a entendu le grand groupe canadien La Presse qui a investi 40 millions de dollars pour une réforme radicale et qui est apparemment un succès. Donc, il y a deux types de façons de faire. Il y a des gens qui vont dans des expériences de révolution radicale et d'autres qui font des changements petit à petit, suivant les moyens des uns et des autres. Donc, je voulais être confrontée aux expériences des autres et de ce point de vue, on a été servi.
Est-ce que tu repars avec des idées nouvelles, des envies nouvelles, des réponses ou pas vraiment ?
Des réponses, non, mais une approche. Oui, je pense qu'il faut vraiment avoir une approche économique différente. Il faut vraiment se poser des questions au niveau de l'actionnariat et pas seulement au niveau de la rédaction.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont des enjeux industriels qui se posent et non pas seulement des enjeux au niveau des journalistes. Alors bien sûr, il y a des questionnements au niveau des journalistes, comment on s'adapte, comment on exerce différemment notre métier ou on s'adapte aux nouveaux moyens. Mais il y a des enjeux importants qui doivent être pris au niveau de l'actionnariat. Les investissements, ça ne se fait pas au niveau des journalistes, ça se fait au niveau des patrons.
Bonjour Sanas Bouaye.
Salut.
Toi, tu es rédactrice en chef également d'un média en Tunisie cette fois-ci, donc toujours dans le monde arabe mais à l'autre bout de la Méditerranée. Un média qui est tout récent, dont on a déjà parlé dans l'atelier des médias, qui s'appelle Inkifada. Même question, qu'est-ce qui t'a intéressé ? Pourquoi tu as choisi de participer à cette rencontre de l'OIF ?
Bon, alors Sybille a déjà dit pas mal de choses et je pense qu'on se retrouve là-dessus. Ce qui est intéressant de mon point de vue, c'est que l'espace francophone, il est double. Il y a l'Afrique subsaharienne, par exemple, et beaucoup de pays où le français est la langue officielle. Et nous, en Tunisie, c'est pas le cas. Et c'est ce que disait un peu Sybille sur le fait d'écrire en français au Liban, même si c'est encore différent et l'histoire est différente. Mais en Tunisie, on assiste vraiment à un recul de la langue française.
C'est le cas au Liban aussi, non, Sybille, le recul de la langue française. française. Non, oui, quand même.
Oui, il y a un petit recul de la langue française, mais même si elle est encore assez solide.
Nous, on est dans un recul qui est le fait de plusieurs acteurs, en fait. On a d'un côté un recul, une perte d'utilisation de la langue française parce que l'éducation a été mise à mal pendant longtemps. Donc les jeunes ne parlent plus très bien le français. Et puis on a aussi la montée d'une classe politique nouvelle avec la Révolution qui prône plutôt un retour à la culture arabo-musulmane et où là, il y a clairement une stigmatisation un peu du français qui avant pouvait être vu comme une langue marqueur d'élite intellectuelle et qui aujourd'hui est clairement perçu comme un marqueur social, économique.
Une classe politique qui va plus regarder vers le Golfe que vers le Nord et les pays de l'Europe, non ?
Oui, voilà, clairement, plutôt, et qui ravive un peu cette idée, quelque part, de la France, de l'époque de la colonisation, alors qu'on est complètement sorti de ça, et que moi, ça fait 3 ans que je me bats pour dire, la langue, oui, ça peut être quelque chose d'identitaire, mais ça peut aussi être un outil de communication, comme l'anglais, comme le disait Sybille, qui gagne du terrain. L'anglais, bah, après tout, on le voit comme un outil de communication, on le voit pas forcément comme un marqueur identitaire, et je pense que c'est important.
La francophonie, c'est bien évidemment la France aussi, avec de plus en plus de médias français, Le Point, Slate, Le Monde bientôt, qui visent maintenant les publics dits francophones, c'est-à-dire les gens qui parlent français mais qui ne sont pas en France, qui s'intéressent à ces audiences parce qu'ils ont compris qu'il n'y avait plus de frontières avec le numérique, qu'en plus, d'ici quelques années, et c'est déjà le cas, la majorité des gens qui parlent et lisent le français seront en dehors de France et ne seront pas de nationalité française. Vous, quel regard vous portez sur ça, Sybille et Sana? Est-ce que ce sont des audiences qui vous intéressent? Est-ce que vous vous sentez loin? Est-ce que vous vous sentez menacé par les médias français basés en France? Sybille?
Non, je pense que chacun a sa spécificité. C'est-à-dire, c'est sûr qu'un Libanais qui veut s'intéresser à la politique française, par exemple, ira spontanément vers un média francophone. En revanche, un média comme L'Orient le Jour ou comme Le Commerce du Levant a tout à fait vocation à la fois à parler aux Libanais francophones de sujets locaux qui les intéressent, mais aussi à parler au public francophone du monde entier, français notamment, de problématiques notamment proche-orientales qui les intéressent. Sur Internet, L'Orient le Jour, les premiers visiteurs qui viennent sur le site de L'Orient le Jour sont basés en France. Les Libanais viennent en deuxième position. Il y a le Canada ensuite. Enfin, il y a beaucoup de pays où la diaspora libanaise est implantée, parce qu'il ne faut pas oublier que les Libanais sont partout dans le monde, mais aussi des francophones intéressés par l'actualité proche-orientale. Alors, c'est un projet d'avenir, oui, c'est d'être ce regard en français, mais pas français, qui est quand même local, sur cette région du monde. C'est une différence importante.
Sana ?
Ouais, je suis très d'accord avec ce que vient de dire Sybille. C'est important d'essayer de se connaître les uns les autres, parce que sinon on reste avec ce qu'on a déjà, un regard qui culturellement n'est pas forcément prêt à comprendre tous les enjeux. Et effectivement, on est dans une période où il y a beaucoup de défiance, où il y a beaucoup de crises. On est en train de parler de terrorisme à longueur de temps et on est en train d'attiser un peu comme ça la haine et l'incompréhension entre les peuples. Et je pense que c'est important d'essayer d'avoir des regards croisés pour qu'on se connaisse mieux, parce que un des buts du journalisme, je pense, c'est de mieux connaître son voisin pour réussir à mieux vivre avec lui. Donc moi, ces initiatives, je les trouve très positives.
Merci. Bonne continuation pour vos projets au Liban et en Tunisie. À bientôt.
Au revoir. Salut.
Dernière séquence de cette émission consacrée à la conférence internationale sur l'avenir des médias francophones. Je suis avec Ibrahim Sissavané. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle de Côte d'Ivoire. Vous avez un long parcours de journaliste et de responsable dans les médias dans votre pays. Et vous étiez chargé, lors de cette conférence, de remettre un rapport général, c'est-à-dire d'écouter attentivement tout ce qui se disait et de donner quelques préconisations. Alors, quelles sont-elles, ces préconisations ?
Bon, d'abord, il faut dire que cela a été une conférence enrichissante par la qualité et la quantité. On a d'abord insisté sur le fait que nous devons mieux intégrer la culture du changement, ne pas avoir peur du futur, essayer d'impliquer même ceux qu'on considère aujourd'hui comme des médias marginaux.
Comme
par exemple, un certain nombre de blogueurs, un certain nombre de petites agences qui s'est créée. Ce sont les gens qu'il faut écouter. Il y a aussi la question du financement par les États, aussi bien des entités publiques, mais des facilitations aussi, même pour les entités privées. Or, il y a une baisse tendancielle de ces subventions, de ces budgets. Il faut corriger cela. Et il faut arrêter aussi l'obsession de la lutte contre l'anglais. Il faut compter ses forces. Il faut innover chez soi et ne pas être tout le temps dans une sorte de bataille linguistique.
Est-ce que vous avez le sentiment que ces préconisations vont être entendues, appliquées par l'Organisation internationale de la francophonie ou par d'autres acteurs étatiques, institutionnels, médiatiques qui étaient présents ici ?
Écoutez, ce que j'ai dit dans mes conclusions, c'est que le résultat de tout ça dépend de chacun de nous, individuellement et collectivement. Ça ne dépend pas seulement de l'OIF, ça ne dépend même pas uniquement des chefs d'État, mais ça dépend de notre capacité collective à chaque fois mettre le curseur sur le problème le plus important. On ne peut pas se contenter que tout se fasse sans nous. Il faut quasiment chaque jour apporter sa propre pierre à l'édifice.
Merci.
Merci beaucoup.
J'espère que vous serez entendu, en particulier pour les blogueurs et les nouveaux projets et l'innovation.
On va se faire entendre. Merci beaucoup à vous.
Rejoignez la communauté de l'Atelier des médias sur Internet.
http://atelier.rfi.fr.
C'était l'émission numéro 357 de l'Atelier des médias proposée par Marie-Catherine Beuth, Francis Pisani, que nous retrouverons tous deux la semaine prochaine. Manon Mella, Raphaël Constant, Dilette Sadawi, Julnar Douek et Raja Yahyaoui, nos deux coordinatrices d'Arablog, Simon De Creuse, Johnny Bissakonou et Ziad Malouf. N'hésitez pas à nous suivre, à nous lire, à nous contacter sur Twitter, sur Facebook, sur atelier.rfi.fr, sur mondoblog.org, sur libiablog.org et bien entendu sur arablog.org, notre plateforme de blogueurs en arabe. Salut à toutes et à tous, à la semaine prochaine.
C'est fini ou c'est pas fini?
Ah ouais, les bonus.
Les bonus.
Ben, ça continue sur Internet.